vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine. Donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour et tout d'abord merci de prendre le temps de réaliser avec nous cet entretien téléphonique en direct de la Bolivie. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît?
Je m'appelle Cristina Canedo et j'habite à Cochabamba en Bolivie. Et je suis gestionnaire culturelle, artiste et aussi travailleuse agente des arts sonores et radiophoniques.
Alors, ça va bientôt faire 6 mois qu'un nouveau gouvernement néolibéral est arrivé au pouvoir en Bolivie. Un de ses premiers gestes a été de vous proposer un paquet de réformes qui mettait en cause une subvention quant aux hydrocarbures à la fin du mois de décembre-janvier de cette année. Réforme à laquelle vous avez répondu dans la rue avec une mobilisation générale qui a fait reculer le gouvernement. Néanmoins, depuis le mois de janvier, le climat n'est pas à l'apaisement. Le gouvernement continue de proposer certaines réformes. Les attaques n'ont pas cessé ces derniers mois et la crise économique dans laquelle se trouve le pays n'est pas résolue. Ainsi, c'est depuis le début du mois de mai que de nouveaux appels à la mobilisation ont été lancés. Et cela va maintenant faire plus d'un mois que un mouvement s'organise dans l'ensemble du pays en intégrant une diversité de secteurs. Alors, tout simplement, est-ce que tu peux commencer par revenir sur le contexte de ce mois de mai et sur les différentes annonces qui ont amené au déclenchement de cette mobilisation?
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on est dans une espèce de serre médiatique dans ce moment, et il y a aussi toutes les impositions de narratives, des choses qui aussi se partagent à l'extérieur et qui sont... est prise par cette hégémonie de la presse et alliée aussi à la droite, que par exemple les mobilisations sont lisérées par Evo Morales, mais qu'en fait il y a pas, c'est aussi, ce sont aussi des récits très simplistes, parce qu'ils prennent pas, y a pas prise en compte de les demandes et aussi les causes de toutes les mobilisations qui sont des différents secteurs qui sont vraiment en bloc parce que on est dans une crise dans laquelle on n'arrive pas à sortir depuis des années déjà. Et en même temps, on sait que ça fait partie aussi de cet alignement avec les politiques des ultra-droites qu'ils imposent à l'Amérique latine, tout ce qui se passe et qui était en train de se passer en Argentine et au Chili dans ce moment aussi, avec Milei, avec Kast. Rodrigo Paz, en ce moment, il prend aussi cette méthode et comme une formule à reproduire dans ce territoire avec les mesures qu'il est en train de prendre depuis il y a 6 mois. Et ici, tout commence aussi à partir des mesures et d'un paquet de décrets qui ont été lancés en 2025. Et le peuple s'est mobilisé et on a pu faire l'annulation de ces décrets. Mais face aux mesures d'austérité qui ont été livrées et aux intérêts étrangers et aux intérêts de l'agro-business et de l'Orient bolivien, c'est qu'à partir de ça, il s'est commencé avec cette rébellion populaire et ouvrière et paysan. Vu qu'il n'y a pas eu un dialogue ou une consultation avec les différents secteurs de base, et vu qu'on a vécu aussi toute cette situation en janvier, décembre, janvier, et aussi avec la continuation au prix des carburants et des nouvelles attaques contre l'éducation, et en même temps toute la situation que ces gouvernements n'est pas capable de gérer, c'est à partir de là qu'il commence et s'approfondit et s'est radicalisé les mesures des résistances des différents secteurs mobilisés, en sachant que ces politiques suivent les pas de la droite en Amérique latine et sur les ordres de l'impérialisme et d'États-Unis, quoi. Alors, dans ce moment, tout a été en train d'escalader et oui, maintenant on demande la démission du président parce qu'il n'y a pas la capacité, et de ses ministres, parce qu'il n'y a pas la capacité de gérer toute la situation.
Dans ton énumération, tu es revenu sur une réforme agraire. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails, s'il te plaît?
Bon, la loi 17-20, et c'était pour la conversion de la petite ou moyenne propriété agraire qui a été lancée en avril. Et que son objet principal, c'était de permettre que les petites propriétés qui sont dirigées pour l'agriculture familiale puissent être changées volontairement à une catégorie de moyenne propriété. Et dans ce moment, ça permettait que les gens qui auraient de la dette puissent obtenir des crédits contre leurs terres. Mais ça, c'était aussi absurde parce que les gens, ils ont déjà accès au crédit par rapport à leurs produits. Mais ça c'est parce que aussi il y a des intérêts par rapport aux terres que des entreprises multinationales puis entrer, vu que dans ce moment aussi il y a des intentions de privatiser les entreprises qui ont fonctionné depuis des années, qui ont été nationalisées. Et aussi il y a tout un paquet de réformes et tout un paquet de lois qui viennent justement en bénéfice de ces empresariats de l'agrobusiness et qui ont vraiment l'envie de continuer avec des logiques extractivistes. Et dans différents territoires dans notre pays, on a l'Amazonie, on a les terres communautaires, on a justement les réservoirs de lithium, on a l'eau et aussi toutes les territoires et notre ressource naturelle sont en danger dans ce moment, vu que ça s'aligne avec les politiques prédatrices et dévoratrices de vie. et qui s'aligne aux politiques aussi des États-Unis dans ce moment, vu qu'ils peuvent pas soutenir leur crise non plus et leurs politiques sont d'aller, voilà, soumettre les pays du Sud et pour pouvoir se sustenter. Et par rapport à la loi 1720, les paysans et les communautés ont eu un risque et ont un risque de prendre leurs terres comme garantie pour des accès au crédit bancaire et avec l'excuse de modernisation de la production. Et aussi, le conflit, au fond, c'est la lutte pour le modèle de la propriété de la terre en Bolivie. Et on dénonçait que ces lois, même si elles étaient présentées comme volontaires, ça, c'est un cheval de Troie, comment on dit,
Un cheval de Troie.
un cheval de Troie. Et les points clés de ces conflits, c'est la fin de la protection de la petite propriété et indivisible pour la loi. Si les gens peuvent accéder à un crédit, ils ne peuvent pas le payer. Les terres peuvent être usurpées par les banques, etc. Ça, c'était une porte à la concentration des terres. Et ça, c'est justement le chemin ouvert pour que les grandes entreprises peuvent acheter ces terres en subastas, en, comment on dit, attends, en chair, non?
Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être que tu nous expliques de quelle manière est-ce que cette réforme agraire, elle implique une transformation des rapports sociaux, de l'organisation sociale du territoire.
Les terres communautaires sont une garantie aussi de préservation des logiques et des dynamiques d'organisation et organique. Il y a des formes d'organisation qui sont très importantes pour la dynamique aussi des communautés, des communes, les peuples aussi s'organisent et aussi ont une relation avec leur territoire et la terre. Alors, rentrer dans ces dynamiques des séparations, des dilutions de ces types d'organisation, c'est un grand danger aussi pour notre forme d'organisation, de résistance, de lutte. Et dans ce moment, vu toutes les répressions qui sont en train de se mettre en place contre les bases mobilisées, on voit que de l'autre côté, cette situation de conflit est en train de renforcer aussi les dynamiques d'organisation. Et maintenant, on sait que on ne va pas non plus laisser que nos droits soient vulnérabilisés par rapport à ça. C'est pour ça que dans ce moment, il n'y a pas moyen d'aller en dialogue. On ne veut plus un dialogue avec le gouvernement. On veut que le président et les ministres démissionnent. Comme je disais, il n'y a pas un pas en arrière parce que le peuple et les différents secteurs sont en pied de lutte. Et on sait que ces dynamiques vont continuer avec tous des paquets de réformes, etc. Alors, il y a tout un peuple qui veut plus se rendre à n'importe quelle dynamique qui vienne, ou bien des choses imposées par le gouvernement dans ce moment.
Bien sûr. Et dans ton énumération, il se trouve que tu as aussi abordé la question de l'éducation. Est-ce que tu peux développer un peu cet aspect?
Il y a le magistère et les profs, le magistère qui est aussi sorti pour se manifester il y a quelques semaines, que dans ce contexte général, avec cette crise marquée par cet agenda gouvernemental, il y a eu que le ministre de l'Éducation a reconnu une nécessité de mesurer la qualité, etc., etc. Et en même temps, le magistère, il a demandé, avec ses demandes d'augmentation salariale et des créations d'ITM et des respects du règlement de la carrière d'enseignante et aussi la non-privatisation de l'éducation, parce qu'en fait, il y a eu des discours de privatiser l'éducation. Alors, cette partie-là, vu qu'il y a eu dialogue avec le ministère, etc., il n'a pas passé. Mais on ne pourrait pas dire que d'ici un temps, on va se trouver aussi avec des nouvelles réformes par rapport à l'éducation. Il y a eu aussi des changements, des autres lois éducatives par exemple, des calendriers, des fériés ou des jours qui maintenant ils ne reconnaissent pas des fêtes et quelques fêtes originaires, par exemple, et qui a aussi un attaque par rapport à toute la construction qui s'est faite dans ces dernières dizaines d'années. Et que là, on peut voir qu'il y a aussi une négation, une niaison. Voilà, ces petites choses qui te fait penser, en fait, parce que ça s'arrive, le fait qu'ils veulent annuler toutes les choses que le dernier gouvernement il a fait par rapport à la reconnaissance et la valorisation de la culture, de notre diversité culturelle.
Okay.
Voilà.
Et comment est-ce que toi, t'expliques, en fait, la rencontre et l'unification de ces différentes revendications et de ces secteurs dans la mobilisation?
Si le mouvement et les bases, les mouvements ouvriers et aussi du peuple à pied, des villes et aussi des campagnes est mobilisé, c'est pour des motifs réels. J'avais dit la canasta familiale. C'est le panier familial, et c'est impossible de soutenir. Et vu aussi la montée des hydrocarburants et aussi toute l'inflation qu'on est en train de vivre, ça ne permet pas de donner à manger à nos enfants. Et le peuple ouvrier, il est sorti et s'est mobilisé aussi par rapport aux demandes et aux besoins de meilleures conditions salariales, des salariés. Et à partir aussi de justement tout ce qui s'était passé au début et qui a commencé en décembre et en janvier, et le gouvernement a commencé à criminaliser le droit à la proteste, le droit au blocage, le droit à la proteste justement. Et c'est aussi à partir de ça que les peuples mobilisés a été justement contre. Et après au carnaval, a repris les mobilisations. Parce que c'est aussi, on est en face à des politiques factieuses. Et on voit qu'il y a une espèce de pousseta d'entrée en force avec tous les récits aussi et les narratives des criminalisations finalement. Et il y a des diffamations sur les motifs des mobilisations et les ouvriers. Ce que je disais au début, c'est dire que Evo Morales, il est derrière toutes les mobilisations du secteur populaire. Mais non, ça c'est une erreur de dire ça. Et le gouvernement et les narratives, ils cherchent à diviser le peuple bolivien avec des méthodologies propres de la droite latino-américaine, alignées, comme je disais, aux politiques extérieures. Et oui, et dans ce moment, des narratives de haine, des désinformations sont en train de s'écordonner, c'est potentieux. Et jusqu'à ce qu'on sait, il y a plus de 7 mois, des morts, et aussi et des gens blessés et aussi des gens qui ont été kidnappés et qui ont été victimes de persécutions. On voit que le gouvernement répond aux intérêts de ces espèces de logis capitalisme de l'agro-business avec les envies des privatistes des entreprises. Alors, oui, on voit que cette répression sélective et la violence et aussi la violation des droits humains avec les persécutions, les appréhensions, avec, entre guillemets, ces corridors communautaires sanguinaires qui ont été utilisés comme justification pour kidnapper, pour réprimer et pour encarcérer, emprisonner les manifestants, en utilisant aussi des langages de trahison, etc. Et aussi, on est aussi en face à des intentions aussi des États, d'État d'exception, d'État des sièges. Et là, on est en train d'attendre aussi dans quel moment. Et dans ce moment, on sait qu'on devra tous continuer à soutenir plus radicalement les espaces des mobilisations, des blocages et des protestes.
Alors, d'après ce que tu viens de nous raconter autour de la mobilisation qui s'organise, qui a lieu depuis plus d'un mois maintenant en Bolivie, celle-ci s'organise autour de manifestations et de points de blocage. Est-ce que tu peux d'abord revenir sur la fonction et l'intérêt des points de blocage dans l'organisation du mouvement ?
Bon, les blocages sont des espaces de socialisation d'abord et d'organisation, disons, organique. Personnellement, je trouve que les points de blocage sont aussi un espace de partage et en même temps des résistances collectives. Parce que là, dans cette dynamique, il y a beaucoup aussi des solidarités parmi les participants et aussi... justement, je te partage une petite expérience. Il y a juste une semaine, et dans les montagnes, on était en train de descendre, et en même temps, il y avait un point de blocage qui était en train de se mettre en place. Et c'était aussi beau de voir comment les gens pouvaient monter avec leurs instruments et avec beaucoup de joie. En même temps de pouvoir partager des moments ensemble et de pouvoir discuter de tout ce qui est en train de se passer, d'avoir cette horizontalité et aussi des pots en commun, un espace justement de partage de la nourriture, un espace de partage des points de vue, des partages des vécus et des choses que chaque famille, que chaque personne est en train de vivre dans ce moment. Alors, je trouve que oui, des blocages sont installés dans des points précis des circulations. Et ils se sont installés dans différents points, pas seulement dans les villes, mais aussi dans des gros chemins, dans des autoroutes. Et les points de blocage sont beaucoup. Et dans toutes les régions du pays, il y a des points très forts à l'Alto, à La Paz, et aussi à la rentrée de La Paz. Ils ont des grandes autoroutes. Ici, à Cochabamba, c'est aussi, il y a des points de blocage. Ce sont, les blocages, sont aussi les premiers instruments de lutte et des résistances de la Bolivie. Parce qu'en fait, ce sont les façons dans lesquelles aussi les différents secteurs ont pu nous faire écouter, à part aussi des marches. Les blocages sont des espaces de socialisation, sont des espaces de réflexion, sont des espaces de beaucoup de solidarité.
Et est-ce qu'il y a des grèves qui sont menées dans certains secteurs ou des appels à la grève qui sont en train d'être faits actuellement?
Bah justement, ces derniers jours, il y a eu un appel aussi de la centre ouvrière de la COB, la centre ouvrière bolivienne. Et justement, il y a eu aussi une suspension d'une assemblée qui devait se faire samedi, il y a quelques jours. Et que hier, il y a eu un rassemblement dans différents points du pays ou dans des assemblées et tout. Il y a eu, il y a une confirmation, comment on dirait. Et il y a des appels des grèves et huelgas, vu que tout s'intensifie. Et par exemple, il y a aussi la participation. Moi, j'habite dans une communauté et à côté de Cochabamba qui s'appelle Totorcagua. Mais il y a justement la somme des différents secteurs urbains à ces mobilisations dans des blocages, etc. Il y a des marches dans ce moment et tout commence à s'intensifier. Je ne pourrais pas te dire que le secteur du lithium, le secteur nanana, oui, on parle du secteur mineur qui est aussi impliqué dans cette situation et aussi des différents blocages qui s'unifient, qui coordonnent et qui se somment dans ce monde de démission. Et qu'ils ont, y a des appels justement là, aux grèves nationales et tout. Mais là, on commence à sentir à se rassembler, à s'unifier, à être plus concret dans différents partis, dans différents secteurs. Alors oui, moi, personnellement, j'attendrai à que des différents secteurs, ça se concrète des huelgas. Justement, à travers aussi des assemblées ouvertes, populaires, on se rend compte qu'il y a une diversité de collectifs, d'individualités, de communautés, par exemple hier aussi, ça s'est fait un bilan de conjoncture pour partager des lectures de l'état actuel de la résistance et de la lutte. Et maintenant, oui, il y a une conformation plus solide, voilà, c'était ça le mot, plus solide, qui est en phase des coordinations et d'organisation. Et cette existence radicale pour la démission, mais aussi pour résister et lutter pour la dignité du peuple bolivien. Et pour moi, ce sont des moments très beaux, je dirais. Et au milieu des confrontations, au milieu des grèves, au milieu de ça, ce sont des symptômes de la révolution qu'on est en train de mêler et que j'espère que ça soit aussi un exemple de force pour des peuples, des pays ici à côté et des territoires d'à côté qui subit dans ce moment la montée, comme je disais, de la droite, mais pas dans le sens binaire de droite-gauche, sinon le fait qu'on est en train d'habiter un moment très basculant et dans le monde et partout, où aussi tous les paradigmes sont en train de changer et que la vieille politique doit se casser. Et qu'en fait, je vois que tous les secteurs populaires et originaires et ouvriers, et il y a une conformation très solide et d'organisation, des solidarités qui est en train de se mettre en place. Et ça, c'est exemplaire et ça donne beaucoup d'espoir.
Alors maintenant qu'on est revenu sur la question des espaces matériels dans lesquels s'organise la mobilisation, il nous faut faire un point sur la répression qui s'abat sur le mouvement, notamment à travers différentes réformes qui ont été proposées par le gouvernement. Donc on a cette volonté de criminaliser les points de blocage, mais on sait aussi que le gouvernement a la volonté de mettre en place d'autres mesures afin potentiellement de passer en force. Est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail sur l'ensemble des mesures répressives et sur ce à quoi doit faire face la mobilisation?
Et cette crise a démontré l'incapacité du gouvernement et de Paz à gouverner sans confronter les mouvements sociaux. Et avec toutes ces tentatives de loi anti-blocage et aussi d'état d'exception, que justement à partir du 16 mai, pour faire face justement à cette situation de blocage et des mobilisations, et le gouvernement, oui, il cherche à mettre des places, des mesures très fortes. Et par rapport à cet état d'exception sectoriel, il y a aussi des paradoxes. Par exemple, le comité pro-Santa Cruz avait exigé un état d'exception sectorisé pour rétablir l'ordre. Et avec ça, bah, l'armée pourrait être... voilà, il est déjà déployé dans différents secteurs pour dégager des routes et pour démobiliser les manifestants. Et aussi, par rapport à la criminalisation des manifestations, avec nos droits de se manifester. Et bah, voilà, le gouvernement cherche à éliminer des restrictions procédurales et que ça permet des arrestations sans contrôle judiciaire dans les médias ou des amendes plus lourdes pour les manifestants. Et on ne parle même pas pour les dirigeants, ou bien on parle de toutes les gens mobilisés.
Donc d'après ce que je comprends, autour de cette question d'un état d'exception, il existait auparavant des mesures qui le limitaient.
Bah, y avait, c'était la loi, bah, c'est la loi 1341 qui a été installée en 2020 après aussi toutes les répressions et la massacre de Sencata et Wayani à La Paz et ici à Cochabamba, et que ces lois elles donnaient des limitations aux situations d'état d'exception. Et par exemple, c'était il y avait une limite des 60 jours et pour tout un état d'exception. Et c'était contrôlé aussi par l'Assemblée législative. Il y avait des sanctions limitées. Par exemple, il y avait des amendes ne pouvaient pas dépasser 10% du salaire un minimum. Et aussi la responsabilité des fonctionnaires. Elle annulait pour cadrer aussi, donner... il donnait une certaine sorte, certaines protections. Que les responsabilités, par exemple les fonctionnaires pouvaient être poursuivis et en tant de responsabilité en cas d'abus. Et maintenant, il y a une durée, par exemple, dans ce cas de maximum 60 jours, maintenant, il n'y a pas une durée limitée. On peut être dans une situation d'état de sièges d'exception illimité, décidé par ce président. Et maintenant, l'Assemblée ne peut pas constater et pas s'opposer aux aspects de contrôle, et aussi des amendes, et aussi des persécutions et des criminalisations justement de la proteste ou des participations dans les mobilisations ou dans des blocages. Et aussi, maintenant, les fonctionnaires sont protégés. Disons, dans ce cas, Rodrigo Paz, qui lui, s'il l'installe, un état d'exception. Et dans le cas aussi comme 2019-2020, c'était aussi le cas que Jeanine Agnès, dans sa gestion, il y a eu les massacres à Sencata et à Wayani. Et justement, cette loi, qui vient d'être abrogée, elle protégeait certains droits fondamentaux. Et maintenant, avec cette annulation, l'état d'exception peut restreindre presque tous les droits. Voilà, elle supprime, le verrou juridique qui va empêcher le gouvernement de déclarer un état d'exception répressif. Et maintenant, justement, le fait de déployer l'armée dans les rues, la police... et cette armée, la suspension des libertés civiles et la répression, et surtout dans les manifestations et dans les points de blocage, sans contrôle, sans aucun contrôle parlementaire ni rien.
Okay. Face à la violence de l'État vis-à-vis de la mobilisation qui s'organise sur le pays, La question va être celle de la capacité aussi du mouvement à s'auto-défendre. Et dans ce sens-là, quelles ont été les discussions politiques autour de cette question de l'usage de la violence? Et est-ce que la question d'armer la lutte a été soulevée?
Moi, je dirais que c'est sûr qu'il y a, c'est sûr qu'il y a différents groupes qui... que si on a besoin de s'armer pour confronter, voilà, bah, on le fera. Symboliquement, on parle aussi bah, des lance-pierres, comme aussi dans le mythe, tu vois ici au lac Titicaca, par exemple, et il y a le mythe des géants, de l'existence des géants, dans lesquels les armes qu'ils utilisaient, et aussi on a utilisé dans l'histoire nos armes, c'était des lance-pierres. Alors, et oui, j'ai vu justement des vidéos où à la passe avec des lance-pierres, bah, c'est ça nos armes. Je pense que aussi par rapport à nos méthodologies de résistance militaire, disons, et aussi utiliser bah, à la campagne, bah, vu qu'ici on utilise les, voilà, je te dis, je sortais la lance-pierre, et que ça fait partie aussi de c'est très symbolique en fait, de pouvoir lancer les pierres comme dans l'époque aussi de la coloniale, etc. En faire face aussi à des machines qui lancent feu, et ben nous on lance des pierres. Et moi je trouverais que ça c'est aussi un symbole de la résistance. On va pas faire aussi, oui, mais bien sûr, si on a besoin de s'armer et si on a besoin de ce que c'est en train de faire aussi, on est en train de penser comment faire face à des stratégies militaires entre guillemets, et qu'on a besoin aussi de s'organiser pour pouvoir faire des protocoles de soins, faire des protocoles de care, de comment on s'organise internement entre différents groupes, et dans les cas des répressions armées. Et c'est sûr qu'il y aura des groupes qui mettront à disposition si on a besoin. Et justement, ici à l'Alto, il y a quelques semaines, il y a justement dans les moments de répression, et Nelvio Poma et l'Alto, et des dénonces comme de bah, oui, c'est parce que c'est comme terroriste d'État, et c'était. Il y a eu des tirs à balles et qui étaient documentés. Et en même temps, oui, maintenant, en ce moment, on a plus de 7 morts. Et depuis fin avril, début mai, et qui ont été tués pendant des interventions anti-blocage et tout ça. Et aussi dans les villes, ici comme exemple, il y a un groupe qui s'appelle la résistance Coachella qui vont avec leur moto, et que c'est un groupe raciste et très ignorant et très violent, et qui sont prêtes à aller justement et attaquer aux gens des blocages. Ces groupes, et dans ce cas, parce qu'à La Paz, à Santa Cruz, il y a différents groupes qui sont pareils, qui se sont conformés en 2019 et qui ont participé dans des moments très violents où ils allaient taper des gens, des manifestants, où ils allaient taper... C'est comme des groupes nazis qui vont aller... voilà. Okay. Et dans ce moment... Il y a une réconformation depuis quelques semaines. On entend, on écoute qui se réunissent, qui sont là dans des espaces publics en train de s'organiser, en train de dire voilà, qu'ils vont aller aussi participer dans des blocages avec de la violence, etc. Il ne s'est pas passé encore, mais on est face aussi à ce type de menaces, à part les répressions et ces stratégies de démobilisation de la police ou des militaires. Alors moi je fais partie et je suis pro dans ce moment de dire on a besoin de dans nos stratégies d'organisation, on a besoin de et on doit Et on est en train de faire avec nos organisations envisager toutes des stratégies aussi, comme je disais, de soins et tout, dans le cas des répressions et violentes et aussi des confrontations avec des autres différents groupes violents. Alors, oui, mais dans ce moment, on fait face à des situations
se protéger.
Oui, on doit se protéger, on doit envisager tous ces aspects.
Alors, t'es pas mal. Il se trouve que dans l'ensemble de cet entretien, t'es revenu plusieurs fois sur cette question d'une censure et aussi d'une désinformation. Vous avez comme objectif de maintenir et d'élargir cette mobilisation. Alors, quelles sont vos méthodes pour communiquer et renforcer la mobilisation?
Les méthodes d'organisation, c'est déjà c'est le fait d'être dans et de pouvoir s'approprier des espaces publics et de pouvoir faire un appel aux assemblées ouvertes, populaires et intersectorielles, etc. Où il y a justement, comme hier, des espaces aussi des bilans, de partage, d'échanges, des perceptions et aussi des intentions d'organisation, etc., sont des espaces organiques de rassemblement organisation dans les espaces publics. Et il y a les réseaux sociaux, il y a tout le matériel qui se partage. Mais là, on parle de l'hégémonie aussi des médias. On parle de canaux traditionnels, télé, radio. Là, on est face aussi à la censure radiale, par exemple. Mm-hmm. Il y a un média qui s'appelle Radio Causa-Chunkoka qui a été interféré électromagnétiquement pour ne pas être dans les radars FM, par exemple. Et là, on le voit depuis il y a 2 semaines. Moi, j'écoute aussi cette radio et il n'existe plus. Maintenant, il y a d'autres canaux, il y a d'autres formes aussi de solidarité, des réseaux libres, où les informations peuvent passer. Alors, on devient tous, en même temps, des participants de registres et d'enregistrements et de partage de ces informations, de tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que toutes les narratives qui se travaillent par les médias hégémoniques ici dans le pays sont libérées par des 3-4 canaux au niveau national, et aussi c'est eux qui gèrent et c'est eux qui envoient aussi les infos pendant ces 6 mois, tout est totalement dérouillé et ils n'ont pas pu gérer toute cette situation, et aussi avec leur façon de faire, les paquets décrets, des impositions et des mesures d'austérité, qu'on le voit comme je te disais, comme une formule qui s'aligne aux politiques néolibérales et impérialistes, et que là, on ne veut pas jouer et rentrer jouer dans ces espaces. On ne veut pas que la DEA elle revienne. On ne veut pas que Starlink elle s'impose ici. On ne veut pas. On ne veut pas ça. On veut protéger nos territoires. On veut protéger nos formes d'organisation et nos formes de vivre bien dans nos communautés. C'est ça qu'on veut garder et qu'on veut protéger et qu'on va protéger. Et en même temps, oui, l'importance, comme je disais aussi, de faire face à la censure, à la répression, à la criminalisation, tout est vulnérable dans ce moment. Mais et la participation dans ce cas des canaux de partage de l'information, c'est très important. Il y a beaucoup de désinformation, il y a un cercle médiatique très fort et qui veulent nous séparer, qui veulent continuer à nourrir cette polarisation ici et qui veulent aussi nous maintenir désinformés, ignorants et aussi séparés des uns des autres.
Los recuerdos que uno tiene ya no se puede olvidar. Los recuerdos que uno tiene ya no se puede olvidar. Las heridas que yo tengo ya no se pueden curar. Las heridas que yo tengo ya no se pueden curar. tiene que ver la vida con las cosas del destino. Que tiene que ver la vida con las cosas del destino. El destino por su lado, la vida por su camino. El destino por su lado, la vida por su camino. ¡Vámonos!
Alors on arrive sur la dernière partie de notre entretien. Et une première remarque qu'on aurait peut-être envie de faire, ce serait de dire que depuis maintenant une dizaine d'années, la Bolivie a subi, a vécu de très importants bouleversements politiques et que ce mouvement pourrait peut-être être interprété comme une conséquence ou peut-être une cause de ces bouleversements.
Oui, et en même temps, moi j'étais, oui, parce que je te pose aussi la question, tout ce qui s'est passé en 2000, à partir de 2000... 18 aussi, par rapport aux gilets jaunes,
ouais.
Là-bas en France. Je pense que c'est un peu aussi, c'est assez pareil. Il y a, peut-être on a la sensation de temporalité et de, voilà, les choses, voilà, il y a des moments apaisibles, ou je ne sais pas, mais moi je dirais que c'est juste, ouais, en fait, même ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas, c'est que depuis une dizaine d'années, bah, on commence à voir que tout tombe et ça c'est aussi c'est, tout est bouleversant, tout est, ça fait ça fait des années, une dizaine d'années qu'on est en train de, il y a beaucoup de choses qui se passent et même avant avec l'autre partie du gouvernement et du MAS, même oui, là on peut voir que c'est en fait, c'est pas cette situation, c'est pas politique partidaire. Le conflit, c'est pas, on est un peuple qui se réveille et qui réveillé, qui est en train de faire aussi l'utilisation des droits de proteste pour pouvoir protéger nos territoires, protéger nos ressources, protéger nos droits. Et que on va pas se laisser faire ni par une partie ni de gauche ni de droite. Je pense que tout est en train de se radicaliser. Ça fait des semaines qu'on est en milieu de blocage. On est dans les espaces de blocage, des mobilisations. Et je commence à voir que il y a de plus en plus l'urbanité, les communautés de différents secteurs et différents territoires participent de plus en plus dans le point de blocage, dans des manifestations, dans des assemblées. Et tout va se radicaliser parce qu'il y a une rupture totale du dialogue. Il n'y aura pas un dialogue. On ne veut pas un dialogue avec le gouvernement. On veut vraiment et revendiquer la démission du président dans ce moment, de Rodrigo Paz, et aussi, voilà, qu'on ne va pas non plus... Il y a beaucoup de choses derrière pour se dire qu'on va entrer dans un dialogue. Alors, il y a toutes les ressources... je ne vais pas les appeler ressources naturelles, déjà. Non, mais jusqu'à ce que je trouve un autre, d'autres mots. Mais on est en train de défendre nos territoires de l'extirpation absolue des ressources naturelles. On en parle du lithium, de tout ce qui est en jeu dans ce moment pour... le capital étranger et toutes les politiques étrangères qui veulent, qui mettent ses yeux sur ces territoires. Et aussi, et comme je disais avant, c'est une revendication de la dignité et de la lutte populaire, ouvrière, et originaire et paysan de la Bolivie. Et oui, et on a même, il y a des appels à l'unité moi je trouve que ça c'est un moment très important pour pouvoir travailler d'autres choses là au-dessus, symboliquement, etc. Et pour aussi pouvoir et rentrer dans des espaces de politisation profonde dans des secteurs syndicalistes, coopérativistes, mais des toutes formes de d'organisation, je pense que dans ce moment on va pas arrêter. Et je pense que dans les prochaines semaines, les prochains temps. Et oui, on s'attend aussi en même temps, on s'attend qu'il y aurait un état de siège, un état d'exception, de la répression, etc. Mais on se prépare et on se prépare et pour tout ce qui est dans l'avenir, mais surtout dans ce moment. Et ce que je trouve très important, c'est l'unification des secteurs, justement, que ça, on est en train de goûter un peu plus cette force, et on va pas le laisser jusqu'à que Rodrigo Paz y démissionne, et jusqu'à trouver aussi un espace plus coordonné et plus cohérent par rapport à nos demandes et aussi à faire face aussi à notre autonomie et etc.
Okay. Donc on a abordé la question de la déstabilisation interne, des bouleversements internes au pays, et en même temps, comment l'aborder sans revenir sur le fait que le pays soit déstabilisé, notamment par des relations géopolitiques à l'international et principalement par sa relation avec les États-Unis.
Oui, c'est ça, la déstabilisation vient justement des États-Unis avec leur plan, comme ça c'était la même chose, le plan Condor à partir des années 70, et avec les dictatures dans tous les territoires. Et en même temps, oui, c'est clair qu'il y a tout un complot par rapport à ça, à tout ce qui se passe en Argentine, au Chili. Là, on le voyait depuis il y a 2 ans. Il y a toutes les analyses, on le voyait à partir de tout ce qui représente ces territoires. Ici, le lithium, tu l'as bien dit. Aussi, l'eau, et c'est très important. Là, au début de l'année passée ou la fin d'année, on écoutait en fait que voilà, toutes ces... En relation aux IA, etc., ils voulaient implanter des espaces de refroidissement autour du lac Titicaca, ici à Cochabamba, où il y a des ressources hydriques très importantes pour l'utilisation de l'IA, etc., etc. Il y a tout un paquet de discours que c'est totalement absurde de tout, mais en même temps, là, on fait face en même temps à justement aller contre les politiques des États-Unis et on ne veut pas faire partie de ça. Et à partir de ça, on se dit, oui, on veut faire tomber l'État, aussi l'État bolivien colonial. On veut trouver aussi notre propre façon de et continuer avec nos formes d'organisation et nos formes aussi de relations qu'on a avec nos territoires, avec la nature, avec l'eau, avec nos façons de vivre qui se tient, qui se garde depuis des millénies. Et c'est ça, on lutte à résister contre ça. On lutte à résister contre des idées externes, contre des idées qui veulent justement avoir le contrôle sur nos vies et sur nos ressources et sur nos territoires. Et c'est là la grande déstabilisation. En fait, ça vient aussi à partir des États occidentaux qui veulent absolument rentrer et utiliser l'Amérique latine et l'Amérique du Sud pour exploiter, et pour essayer de soutenir la façon de vivre de tous les États du Nord qu'en fait, ils ne peuvent pas soutenir. Ils ont une crise parce qu'ils ne peuvent pas continuer à soutenir leur forme de vie sans devoir justement arracher toute la vie autour. Et on veut pas être exploité, on veut pas être colonisé encore une fois dans cette type d'idée de qu'est-ce qui est vivre bien ou pas.
Et pour te poser une dernière question, quel espoir vous avez, quel enjeu ça peut être pour vous que cette lutte soit aussi un exemple pour les autres pays de l'Amérique latine?
Je pense que l'exemple, ça serait la rébellion contre n'importe quel État répressif, colonial, contrôleur, et qu'en fait, de pouvoir ne pas lâcher l'idée que c'est le peuple, que c'est la population, que c'est le peuple qui est en charge. Les gouvernements sont au service du peuple, sont là en représentation d'un peuple, mais qu'en fait, toutes les dynamiques des pouvoirs et des hiérarchies, il ne faut pas qu'on oublie que nous, les peuples organisés, est en charge. Et qu'en même temps, on ne va pas non plus, qu'on doit aussi analyser toutes les structures de pouvoir géopolitiques pour se rendre compte que si on est vraiment bien représenté par des gens qu'on a choisis pour être dans nos gouvernements, pour nous représenter, mais que si en fait, eux, ils servent à qui? Ils servent à son peuple ou ils servent aussi à aux intérêts des États-Unis et de la géopolitique et tous les enjeux qui sont là. Et que là, on est dans ce moment aussi où les paradoxes aussi sont en train de tomber, que toutes les formes capitalistes et dévoratrices d'âmes et nécropolitiques sont en train de se mettre en place, de nous dire que à nous-mêmes de nous replanter nos relations aussi avec nos propres communautés, nos propres territoires, et aussi de nous demander qu'est-ce qu'elle est notre relation avec nos entourements. Et que voilà, il y a d'autres choses qui vont au-delà des frontières et délimiter il y a d'autres choses, il y a notre façon de habiter un territoire qui c'est avec si on parle de cette sensibilité de toutes les cosmologies et cosmogonies qu'on peut continuer à garder et à reproduire depuis des millénies par rapport à l'existence d'autres formes de vie, où on peut essayer de ne pas rentrer dans une hiérarchie, dans la façon dans laquelle on vit dans le monde. Alors c'est pour ça qu'on veut protéger l'eau, on veut protéger les territoires où il y a le lithium, on veut protéger les espaces aussi où il y a surexploitation minière, on veut protéger l'Amazonie, et il y a d'autres choses, mais je pourrais pas vraiment, je trouve pas les mots. Je pense que c'est aussi peut-être très abstrait, en même temps que ça m'empêche un petit peu de pouvoir le traduire, mais le fait qu'il y a d'autres formes, oui, de se dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est plus grand qu'une structure des pouvoirs.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.